Bienvenue à chacun et à chacune pour ce qu'il est convenu d'appeler le culte de rentrée du catéchisme. Si vous arrivez avec des enfants qui participeront au catéchisme ou à l'école biblique, vous pouvez les conduire jusqu'ici, au milieu des catéchumènes. Et c'est l'occasion pour nous de dire à tous ces enfants qu'ils ne sont pas l'avenir de l'Église, qu'ils en sont le présent, que leur place est toujours parmi nous, même s'il y a un dimanche qui est effectivement plus spécifiquement consacré à la catéchèse. Des enfants qui vont aussi participer à ce déroulement de culte et qui ensuite, juste avant la prédication, rejoindront avec mon collègue Marc Pernaud et les catéchètes un culte en haut dans la salle haute. Je redirai les choses tout à l'heure pendant le culte. Nous sommes toutes et tous les bienvenus, nous avons chacun une place unique parce que chacun nous recevons la grâce, la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons chanter le premier répond indiqué dans le petit livret jaune qui figure au début du psautier français. C'est une manière pour nous de commencer à faire communauté.
Et c'est Jules qui nous guide dans la louange avec ce psaume.
Éternel, ton amour est la plus élevée que les cieux, et ta fidélité est plus haute que les nuages. Ta justice est comme une haute montagne, ta sagesse est plus profonde que les océans. Éternel, tu sauves l'être humain et tout ce qui vit. Que ton amour est précieux, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les humains, ils savourent les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi, la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Merci beaucoup. Et nous chantons tous ensemble le psaume que Jules vient de nous lire, le psaume 36, donc dans le psautier français, les deux premières strophes de ce psaume de louange. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Psaume 36.
Thank you.
Vous pouvez prendre place et c'est Diane qui va nous dire quelques mots sur ce que Dieu nous propose de vivre selon le témoignage de Jésus-Christ.
Voici comment Jésus-Christ a ressuscité l'essentiel, a résumé l'essentiel de la religion et de la morale dans cette seule parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, aime-le avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là.
Merci. Et face à cet idéal infini de l'amour, bien entendu, personne ne peut être parfait. Et Ondine va nous guider donc dans une prière de repentance.
Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleur. Seigneur notre Dieu, bien souvent, nous n'avons écouté que notre désir de l'instant sans nous poser une seule question pour chercher ce qui aura été juste et ce que Jésus en aurait pensé. Et du coup, bien souvent, nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Bien souvent, nous avons oublié notre prochain. Bien souvent, nous t'avons oublié, toi, notre Dieu, qui est la source de la vie. Ô Dieu, toi qui nous aimes encore et toujours fidèlement, donne de la vie à notre questionnement, donne du cœur à notre point de vue. Donne de la force à notre volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et c'est Balthazar qui va nous dire les paroles qui nous annoncent le pardon de Dieu qui est donné à chacune et à chacun.
Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblirait pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi est sauvée, avance en paix dans la vie, nous chantons notre reconnaissance à Dieu. »
Vous pouvez prendre place. Et donc j'ai la joie d'accueillir Cécile Ferrante, donc vous pouvez venir. Comme le Christ nous a accueillis dans son Église, eh bien nous accueillons aujourd'hui avec grande joie Cécile Ferrante. Alors toute petite, elle a découvert la prière, peut-être qu'elle nous en dira un mot. Elle a bénéficié la foi de ses parents, qui étaient donc chrétiens et musulmans ouverts en fait. Voilà. Elle a cherché à mieux connaître Dieu par diverses façons, plein de livres, peut-être diverses religions. Aujourd'hui, elle choisit la foi chrétienne. Rien ni personne ne l'oblige à le faire, bien entendu, parce que vous voyez, elle est grande. Donc personne ne l'oblige, il n'y a pas derrière un fouet en disant « voilà, c'est obligé, tu vas aller faire ta profession de foi, sinon ça ne va pas du tout ». Non, c'est dans juste sa liberté et sa joie. Et c'est pour nous un honneur, c'est pour nous une joie de bénéficier de cet événement. Donc merci beaucoup Cécile, merci d'avoir choisi l'oratoire, bien sûr, parce que pour nous, eh bien, c'est un bénéfice d'un témoignage, bénéfice d'une personne qui dit sa foi, et pour nous, ça fait écho, quelque chose d'important. Au moment où Cécile va être reçue comme membre de l'Église chrétienne, large famille de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ, nous entourons Cécile de notre affection et de notre prière, et nous écoutons avec elle ces paroles de la Bible qui parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain de vie, nous dit l'Évangile selon Jean. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui a foi en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, chacun peut aller vers le Père en toute liberté. Et l'apôtre Paul nous encourage ainsi à vivre cette foi en Christ. Toi donc, fortifie-toi, prends courage, sois dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors nous proposons aux personnes qui désirent devenir chrétiennes de dire une confession de foi qui est obligatoire, c'est-à-dire, je vais vous demander, alors est-ce que vous confessez la foi chrétienne, Cécile ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Voilà, c'est-à-dire que Jésus-Christ est pour nous, d'une façon ou d'une autre, quelqu'une personne essentielle. Alors, c'est vrai que vraiment, je crois que ça rassemble absolument tous les chrétiens. Voilà, c'est pas très compliqué, en fait. Mais quand même, on peut chercher à préciser ce en quoi on croit. Et alors, c'est ce que vous avez fait. Vous avez préparé une déclaration de foi en cherchant, travaillant, écrivant. Et vous allez nous la proposer maintenant, et ce sera notre confession de foi pour aujourd'hui. Donc je vous propose de vous lever pour suivre cette confession de foi et pour chanter ensuite la spontanée prévue.
Je crois en Dieu notre Père, Créateur bienveillant du ciel et de la terre, de tout bien et de tout bonheur. Je crois en Jésus-Christ, venu nous apporter le salut. Il nous a enseigné la capacité infinie de l'homme d'aimer et d'être aimé. Il nous a montré la voie vers l'accomplissement d'un monde meilleur. Je crois en l'Esprit Saint, agissant en chacun de nous, permettant de nous unir et de nous réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle, qui sont ses dons les plus précieux.
Merci beaucoup. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. pour marquer que la profession de foi est plus un début que, je dirais, l'arrivée, eh bien, nous proposons des engagements aux personnes qui font une profession de foi. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur, et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Cécile, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétienne, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain, comme vous-même ?
Oui.
La vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible personnelle, la prière dans son intimité, le culte et la communion avec les autres, le débat, la recherche, tout cela est... C'est des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi que vous venez de choisir et pour être fidèle au chemin que vous empruntez. Cécile, vous avez reçu autrefois le baptême. Nous refaisons jamais le baptême car c'est un signe que la grâce de Dieu est absolument... rien ne peut la remettre en cause, elle est inoxydable. C'est aussi une marque de respect pour les autres églises chrétiennes ou pour toutes les paroisses de l'Église réformée, bien sûr. Vous avez confessé la foi chrétienne ce matin parmi nous. Eh bien, nous accueillons avec grande joie dans la large famille des chrétiens. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle de jour en jour. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire de dire quelques mots, surtout que, bon, c'est vrai que ça demande quand même du courage de parler devant tout le monde. Mais bon, on est en famille, on n'est pas, je veux dire, il n'y a que des gens ici bienveillants. Mais quand même, ce n'est pas facile. Donc merci à Cécile, elle a accepté de dire quelques mots un peu sur son cheminement. Alors c'est vraiment, pour nous, c'est un honneur et c'est un cadeau aussi pour vous, les jeunes.
Il est étrange pour moi aujourd'hui de confesser ma foi devant vous, puisqu'en effet, comme on l'a dit, je suis née d'une mère catholique et d'un père musulman. Et la religion a toujours été, pour nous, un choix très personnel et une démarche libre et individuelle. En entrant à l'oratoire, j'ai retrouvé cette liberté qui m'était nécessaire, mais j'ai en plus trouvé un soutien à ma réflexion et ai découvert l'aspect collectif de la foi que je ne connaissais pas. Aussi, aujourd'hui, je voudrais remercier ma famille et mes amis qui sont venus et qui m'ont soutenue dans ma quête spirituelle. Et je voudrais également remercier mon pasteur pour son accompagnement discret et très précieux.
Merci beaucoup. Oui, d'abord, c'est une joie de vous avoir aujourd'hui, ce matin parmi nous, de bénéficier de votre témoignage, mais c'est vrai que vous parlez de vos familles, de vos amis qui vous ont accompagnés, et c'est vrai que je voudrais les remercier, mais remercier aussi ceux qui, dans cette noble assemblée, ne sont pas protestants depuis toujours, ont choisi la foi aussi, ou bien ceux qui accompagnent quelqu'un, accompagnent leur famille, accompagnent un conjoint, et qui ne sont pas protestants, ou peut-être même qui n'ont aucune religion, qui sont agnostiques, c'est une marque de respect, et je crois que vraiment, oui, on est unis dans la recherche de ce qui fait la source de la vie, de ce qui fait la sagesse de la vie, et donc nous pouvons nous considérer comme frères et sœurs, au-delà même de notre petite chapelle. Mais nous voulons prier pour vous, Cécile, pour dire que nous pensons à vous par l'amitié, par la reconnaissance, mais aussi par la prière. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, et en particulier pour ton esprit qui habite en chacun d'entre nous, nous donnant force, nous donnant courage, éclairant notre sagesse. Merci pour ta parole qui nous guide vers toi et qui nous guide vers les autres. Notre Père, nous te remercions pour Cécile que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, et la joie dans le ciel, si je puis dire, pour ce moment de foi, de confiance en toi et de confiance dans la fraternité humaine. Fortifie notre foi, que Cécile parmi nous puisse grandir dans la foi et par elle, que nous puissions nous aussi grandir dans la foi. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, nous approcher sans cesse plus de toi, être plus confiant dans ta parole, avoir plus de discernement dans notre réflexion, dans notre théologie, être plus au service des autres, non seulement dans le cœur, mais aussi en parole et en acte. Que ta joie, ô notre Dieu, soit notre force. Amen. Merci beaucoup.
Chers frères et sœurs, il est d'habitude pour nous, à l'occasion des cultes catéchétiques, d'avoir un texte biblique qui est recherché dans l'ensemble des textes qui seront étudiés l'après-midi par les enfants de l'école biblique. Alors autant vous dire tout de suite que cet après-midi, mes petits enfants chéris, vous allez travailler sur le cycle de Joseph, un personnage que l'on trouve dans le livre de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament. Nous allons ce matin lire la fin du livre de la Genèse, quasiment, un passage au chapitre 48, un passage au chapitre 49, et il n'y a qu'un 50e chapitre. C'est un passage qui va être lu maintenant, ensuite nous aurons l'occasion de chanter un cantique, nous prierons avant d'entreprendre une méditation. Les catéchumènes resteront avec l'assemblée ici même et les enfants qui sont à l'école biblique, c'est-à-dire les enfants qui sont encore à l'école primaire sur le plan de l'éducation nationale, iront avec Marc et les catéchètes dans la salle haute. Alors, la fin du cycle de Joseph. C'est au chapitre 48 pour une part. Je vous lirai tout d'abord les versets 8 à 22. Donc c'est Jacob qui est le père de 12 fils et d'une fille. Jacob qui est malade et son fils Joseph, son avant-dernier fils, celui qu'il a eu de la femme qu'il aimait, va vers lui avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Jacob, c'est aussi celui qui s'appelle Israël, du temps où, près du fleuve Yabok, il avait lutté toute une nuit avec un personnage mystérieux. Il avait reçu comme bénédiction de ne plus simplement s'appeler Jacob, mais Israël, parce qu'il avait lutté avec Dieu. Voici donc ce que nous lisons au chapitre 48. Israël, donc en fait c'est Jacob. Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait revoir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm dans sa main gauche, non, dans sa main droite, les choses sont importantes, les détails sont capitaux ici. Donc Éphraïm dans la main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé, qui est donc le fils aîné, de sa main gauche, à la droite d'Israël. Je reprends peut-être. Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, il est face à lui, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Je vous laisse mentaliser un petit peu. Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Alors Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui est donc le deuxième. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa.
et dit « Mon fils, je sais. » Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Et donc un peu plus loin, au chapitre 49, alors que Jacob, Israël, est en train de bénir ses 12 fils les uns après les autres, voici au verset 25 ce que nous lisons au sujet de Joseph, donc le père de Manassé et d'Éphraïm. Voici ce que Jacob dit au sujet de Joseph. « C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Shaddai qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions du théome en bas, des bénédictions des mamelles et de l'utérus. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'au désir des collines éternelles. » Seigneur, ta parole est pour nous source de vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose, frères et sœurs, dans notre recueil de chants, louanges et prières, d'ouvrir ce recueil au numéro 68. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5 de ce Te Deum. Éternel notre Dieu, nous pouvons t'appeler Père parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Alors parfois tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi. Et nous savons à quel point nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, le professeur d'Ancien Testament, François Smith, disait que si le Nouveau Testament est une rencontre avec Jésus-Christ, l'Ancien Testament, lui, est une rencontre avec l'homme. Et voilà pourquoi, chers catéchumènes, nous prenons autant de soin à travailler les textes bibliques, et c'est la raison pour laquelle, cet après-midi encore, vous n'échapperez pas à une petite fréquentation des textes bibliques. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous ne faisons pas l'impasse sur l'Ancien Testament. Cela nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre ce qu'est la vie et de découvrir comment la rendre plus intéressante. Alors, c'est vrai, souvent on considère que l'Ancien Testament est assez touffu, étrange par bien des aspects, et ce texte ne déroge pas à la règle. Puis il y a bien d'autres passages de l'Ancien Testament qui ne sont pas jolis jolis. C'est parce que la vie est ainsi, en fait. Et c'est en ce sens que le texte biblique, notamment l'Ancien Testament, est particulièrement intéressant et utile. Utile pour nous faire gagner du temps dans la découverte de ce que nous sommes appelés à vivre. Et le livre de la Genèse est globalement consacré à des histoires de famille extrêmement compliquées. Et là encore, ce passage biblique ne fait pas exception. Et si le livre de la Genèse, le livre des commencements, prend le temps de s'intéresser aux histoires de famille compliquées, c'est parce que nos histoires de famille sont compliquées et mouvementées. Pas toujours très simple, loin d'être tranquille. Et autant être averti, la vie de famille, ce n'est pas un fleuve tranquille. Et après tout, ça va déjà mieux en le sachant. Mais les textes bibliques ne se contentent pas de décrire la vie, de mettre des mots sur ce qu'il nous arrive de vivre. Les textes bibliques présentent des situations compliquées, souvent à la limite de la rupture, pour nous aider à trouver des solutions pour la rendre, sinon plus simple, du moins plus vivable. Avec l'histoire de Joseph qui se trouve à la fin du livre de la Genèse, à la fin de ses récits de commencement, on peut espérer quelques éclaircissements, pas forcément des solutions, parce que la Bible n'est pas un livre de solutions, c'est plutôt un livre qui pose les bonnes questions, et c'est quand on pose les bonnes questions qu'on trouve les bonnes réponses. Et dans le cas présent, nous sommes au cœur d'une histoire qui aborde la question des rapports entre frères et sœurs. Vous savez, ces personnages qui vivent dans la même maison que vous et qui vous rendent la vie un peu improbable. Les questions de la rivalité entre frères et sœurs, ces objets parfois non identifiés que vous êtes obligés de supporter à table. Les frères et sœurs de Joseph sont jaloux de lui. Un peu plus tôt dans le livre de la Genèse, ils se sont même arrangés pour essayer de l'éliminer. Finalement, ils ont essayé de l'abandonner, puis finalement, ils se sont résolus à le vendre, ce qui est quand même déjà mieux. C'est un peu comme lorsque l'un de vous dit qu'il aimerait bien en finir avec sa sœur. Bien. Après de nombreux rebondissements que vous pourrez lire tranquillement chez vous, nous en sommes au tournant de l'histoire. Leur père Jacob va donc mourir. J'ouvre une parenthèse, c'est la première fois qu'il est question dans la Bible d'une maladie. Jacob est malade. Et c'est donc le moment de gérer le partage de l'héritage. Et tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin le moment où il y a un héritage en jeu savent à quel point c'est un peu compliqué aussi. Une succession est toujours une opération extraordinairement délicate à réaliser et la source de nouvelles rivalités. Alors ici, il n'est pas question de partager des biens immobiliers, pas question de partager l'argent, les tableaux, les bijoux de famille, l'argenterie, mais de gérer la relation familiale après la mort du patriarche. Et pour ce qui est de Jacob, il s'agit de gérer les rivalités, de répartir les rôles des fils après la mort du chef de famille. Alors comment Jacob s'y prend-il ? Comment Jacob s'y prend-il ? C'est une vraie question. C'était un peu le cœur de la lecture, le point névralgique, ce sur quoi on bute, parce qu'évidemment, ça ne nous semble pas une bonne façon de faire. Eh bien, Jacob se croise les bras. Il ne se croise pas les bras pour attendre que ça se passe en donnant du temps au temps. Jacob se croise les bras parce que son avant-dernier fils Joseph, celui qui est jalousé par ses autres frères, celui qui a failli mourir, lui présente ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Si vous avez réussi à mentaliser ce qui se passait dans ce texte, il y a donc Joseph qui est face à Jacob. Imaginez que vous soyez Joseph et que je sois Jacob, à titre exploratoire. Vous avez donc compris que je suis âgé, que je ne vois plus très bien, vous voulez me faciliter la tâche, et vous savez que la main droite, traditionnellement, est celle qui est un peu plus honorable que la main gauche, et donc vous voulez que ma main droite aille sur la tête de votre fils aîné. Donc vous allez mettre votre fils aîné à votre gauche pour qu'elle soit sous ma main droite, et le fils cadet sous ma main gauche. Et Jacob va donc mettre la main droite sur le fils cadet et la main gauche sur le fils aîné. Ce n'est pas autre chose que se croiser les bras. Que comprendre à travers ce geste ? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que la main droite de Jacob va être sur la main droite de Joseph et la main gauche de Jacob sur la main gauche de Joseph. Leurs mains vont donc être respectivement liées de la même manière, sans se croiser elles. Et c'est une manière pour Jacob de supprimer le face-à-face en réalité et de prendre la place de Joseph. Au fond, parce qu'ils ont leurs mains au même endroit, ils ne sont plus dans un face-à-face, c'est un peu comme si Jacob était passé de l'autre côté du miroir et se mettait à la place de son fils Joseph. Ça signifie qu'il prend la place de Joseph et qu'il devient le père de ses deux enfants. Et en fait, cette interprétation est tout à fait juste, parce qu'un peu plus tôt dans le texte, au verset 5, il avait été annoncé que Jacob ferait de ses deux fils, enfin de ses deux enfants, ses propres fils. Jacob devient le père de ses petits-enfants. Alors là, j'imagine qu'il y a quelques grands-parents qui commencent soit à s'inquiéter, soit à s'enthousiasmer à l'idée que cela soit possible. Quel est l'intérêt de cela ? Eh bien, l'intérêt, c'est en quelque sorte d'effacer Joseph. Du moins, de faire en sorte qu'il n'apparaisse plus dans la question de la succession. Et de convoquer Manassé et Éphraïm à leur place. Et de fait, lorsque vous lirez par la suite les 12 tribus d'Israël, que vous lirez de quelle façon la terre promise est susceptible d'être partagée entre les fils de Jacob, vous verrez qu'il n'est pas question de Joseph, mais d'Éphraïm et Manassé, les deux demi-tribus qui prennent une part entière dans la succession. Joseph ne va plus apparaître, mais il ne va pas être effacé pour autant, dans la mesure où les enfants de Joseph auront leur part d'héritage dans la suite de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas comme si Joseph n'avait pas existé. Ce n'est pas comme Toutankhamon qui va effacer toute trace d'Akhenaton sur les pierres. On ne fait pas comme si ça n'avait pas eu lieu. On saute une génération. Et je crois que c'est une mesure conservatoire. Une façon de gérer la rivalité, de faire en sorte que Joseph ne soit plus face à la rivalité, face à la jalousie de ses frères, donc de le préserver, et néanmoins de lui permettre de transmettre quelque chose. Le nom de Joseph est effacé, mais sa vie n'est pas supprimée. C'est une façon, je crois, pour Jacob de mettre en réserve son fils Joseph, de le préserver de la rivalité de ses frères. Ça peut être une mesure comme cela un peu radicale quand on sent que ça peut mal finir. Donc, je crois qu'il y a une manière de comprendre ce geste de croisement de bras comme une manière de préserver Joseph. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que le récit de la Genèse est lui aussi traversé par beaucoup de récits où il s'agit de préserver les enfants. Caïn va recevoir un signe de Dieu sur son front pour être préservé de la vengeance des amis de son frère. Et que s'était-il passé ? Caïn, qui était pourtant l'aîné, était jaloux de son frère Abel, qui avait reçu un regard bienveillant de Dieu sur son offrande. Il l'avait tué. Et pour éviter que les amis d'Abel exercent leur vengeance sur Caïn, Dieu avait mis un signe sur Caïn pour le préserver. Jacob avait été préservé de la vengeance d'Ésaü. Jacob avait piqué lui aussi le droit d'aînesse de son frère. Et c'est ce que je vous rappelais avant la rencontre avec Ésaü qui aurait pu mal tourner. Un personnage un peu mystérieux dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël ». Jacob meurt, Israël naît. Et c'est donc un autre homme qui va pouvoir se présenter face à Ésaü. Et puis il y a donc ici, cette fois, Joseph qui est protégé en sautant une génération. Je trouve que cela est intéressant parce qu'il y a là trois manières de protéger celui qui risque de mourir. Et c'est déjà une manière de comprendre que le texte biblique n'est pas un livre de recettes de cuisine et encore moins de recettes au singulier. C'est-à-dire que nous avons un texte biblique qui nous dit que dans des situations limites, dans des situations de rupture, dans des situations où ça risque vraiment de mal finir, il y a des solutions. Alors le texte biblique n'est pas là pour dire comment il faut faire pour que ça marche à tous les coups. Il dit à quel point il y a lieu d'intervenir, à quel point les situations compliquées méritent qu'on en prenne soin et à nous d'inventer la vie qui va avec. Donc il y a une sorte d'appel à ne pas considérer comme irrémédiable des situations un peu compliquées, voire désespérées. C'est une sorte d'appel à réagir à la violence, de réagir à la rivalité, et pour les parents que nous sommes, à ne pas laisser les frères et sœurs s'entretuer comme ça. Notez aussi que ces solutions ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles ne consistent pas à punir les fautifs. Elles ne consistent pas à châtier ceux qui sont jaloux. On n'est pas dans une solution radicale qui élimine l'une des deux parties du problème. On ne liquide ni ceux qui sont jaloux, ni ceux qui suscitent la jalousie. On essaie de trouver une solution pour réarranger. On reconfigure les situations. Donc c'est une invitation à inventer des solutions qui préservent tous les acteurs d'un conflit. Et au fond, c'est quelque chose que l'on pourrait transposer au-delà du cadre familial, bien sûr, dans nos relations quotidiennes, et puis à un niveau plus haut, à un niveau international, par exemple. Bien. Premier élément, gestion des rivalités. Mais il y a un deuxième aspect intéressant à travers ce croisement de mains. En croisant les mains de telle sorte qu'il devient le père de Manassé et d'Éphraïm, Jacob fait un peu plus que de devenir le père de ses deux enfants. Comme je vous le disais, Joseph a voulu simplifier la tâche de son père en mettant l'aîné à un endroit, le cadet à un autre, de façon à ce que l'aîné reçoive la part la plus honorable et le cadet une part un peu moins intéressante. Et Jacob se croise les bras, ce qui signifie que la main honorable va sur le cadet, la main un peu moins honorable sur l'aîné, et donc il y a une sorte de croisement du droit d'aînesse, une sorte de croisement des priorités, la plus la priorité à droite. Et Joseph n'en revient pas. Du coup, Joseph essaie de rectifier la position du père. Je pense que son père, en se croisant les bras, s'est emmêlé les pinceaux. Alors Joseph dit « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Mais le père insiste, persiste et signe. Il rétorque « Je sais, je sais. » Jacob sait parfaitement ce qu'il sait. Et en plus, il sait ce que ressentent les personnes là, en jeu, parce que lui-même a vécu cette expérience du croisement du droit d'aînesse. Il sait ce qu'il fait, il maintient la position, et il sait ce que les uns et les autres sont en train d'éprouver. Il y a d'ailleurs une forme de répétition dans cette affaire. Et on pourrait se dire, à la lecture des textes bibliques, que ça tourne un peu en rond quand même. Une sorte de cercle vicieux. Avec l'aîné qui se fait toujours spolier, qui se fait toujours voler. Et pour l'aîné, il peut y avoir quelque chose d'un peu insupportable à se voir toujours confisquer son droit d'aînesse. L'histoire semble effectivement se répéter. Ici, on aurait une sorte de terre repetita. Mais Jacob s'est croisé les bras. C'est un peu comme une bande de papier. Vous connaissez certainement cela, qui aurait deux couleurs. Un cercle vicieux, c'est quand on la replie sur elle-même. Effectivement, ça tourne en rond, ça ne change pas. Mais s'il y a un croisement, si on croise, et qu'ensuite on continue à tourner en rond, alors les choses sont singulièrement différentes. On crée ce qu'on appelle de nos jours un espace de Möbius. Et en fait, c'est une figure assez intéressante parce qu'il n'y a plus qu'une seule surface. C'est-à-dire que où que l'on soit, si on continue à marcher toujours sur la surface, on arrive toujours à nouveau au point de départ. En fait, c'est un geste assez intéressant et qui d'ailleurs en mathématiques représente l'infini. C'est un signe mathématique qui représente l'infini. Ce sera utile pour les fonctions plus tard. C'est une façon de dire que un cercle vicieux qui est tordu opère quelque chose d'intéressant et de positif. Il n'y a plus un dessus et un dessous. Il n'y a plus qu'une seule surface, en fait. Il n'y a pas un aîné et un cadet. En fait, ce que fait Jacob, me semble-t-il, c'est une abolition des privilèges, quelques jours avant le 4 août 1789. Et notez bien qu'il ne s'agit pas de prendre le droit de quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre. Il s'agit d'abolir la certitude du premier-né d'être supérieur au suivant. Au fond, il met les deux frères sur le même plan, sur la même surface, à égalité. Et d'ailleurs, nous l'avons entendu, ce sont les deux frères qui recevront la bénédiction du patriarche. Il n'y a pas une bénédiction spécifique pour l'un, une bénédiction spécifique pour l'autre. Éphraïm et Manassé reçoivent une bénédiction. Et c'est une bénédiction un peu intéressante, parce que de nos jours encore, chaque vendredi, dans les familles juives, c'est la bénédiction qui est prononcée sur les enfants. Que Dieu te rende comme Éphraïm et Manassé. Pas qu'il te rende comme Éphraïm, point, ou qu'il te rende comme Manassé, point. Qu'il te rende comme Éphraïm et Manassé. Jacob met Éphraïm avant Manassé, le texte biblique le dit, d'accord, mais c'est pour tordre une convention. Il ne le met pas au-dessus, il le met avant. Il tord une convention qui voudrait que l'aîné dispose de droits supérieurs. Ce n'est pas très biblique, en fait, cette histoire de droit d'aînesse. Le texte biblique établit plutôt une égale dignité entre frères et sœurs. Désolé pour ceux qui fondaient quelques espoirs. Cela, Jacob va le faire valoir encore plus précisément auprès de ses autres fils qu'il va bénir tout au long du chapitre 49. Il va commencer par Ruben, le premier-né. Il dit à Ruben... Vous lirez ça tranquillement chez vous aussi, qu'il a tout pour être l'aîné. En hébreu, c'est Borer. Il a tout pour être l'aîné, mais qu'il n'excellera pas pour autant. Et pourquoi ? Parce qu'on rappelle qu'il a voulu prendre la place du père à un moment où le père était un peu absent. Concrètement, il est monté dans le lit de son père. L'aîné n'est pas celui qui se prend pour supérieur aux autres. En fait, c'est même tout l'inverse. C'est d'ailleurs, plus tard, les 12 disciples de Jésus l'apprendront un peu à leurs dépens quand ils se demanderont qui est le plus grand. Eh bien, le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Celui qui se met aux pieds des autres, comme Jésus, qui lave les pieds de ses disciples. Eh bien, là, les 12 enfants de Jacob apprennent que l'aîné, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus fort, le plus grand. C'est celui qui fait passer l'autre avant lui. Et ce terme « borer » est tout à fait intéressant. C'est un terme pédagogique, hein. Il y a un procédé mnémotechnique. Vous savez qu'en hébreu, l'alphabet, ça concerne aussi bien les lettres que les chiffres et les nombres. La première lettre, le aleph, ça vaut 1, et ainsi de suite. quand on arrive à 10, après c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, et on en est à la 24e lettre de l'alphabet hébreu. Borer, Bef, Kaf, Resh. 2, 20, 200. C'est la valse des deux. Le terme qui dit l'aîné, c'est le terme qui parle de ce qui vient après. Et au fond, il y a là un procédé mnémotechnique pour nous rappeler que l'aîné, ce n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est le Rishon, c'est le premier finalement. Et ce que Jacob dit à son fils, Ruben, tu n'es pas le Borer, tu n'es pas l'aîné, tu es le Rishon, le premier-né. Et donc cette valse des deux qui nous rappelle aussi un peu ce mot de Paul Ricoeur qui disait qu'une bonne éthique, c'est une éthique qui se décline en termes de « après vous ». Eh bien, c'est que l'aîné, c'est celui qui fait passer les autres avant lui, et c'est celui qui est capable aux frères, qui est capable d'enseigner aux frères à se réunir. Et ce que dit Jacob, c'est que finalement, de ses 12 fils, Joseph est celui qui a manifestement montré quelques talents pour réunir ses frères. Il les a tous réunis en Égypte, dans une situation quand même un peu compliquée. Et malgré la situation compliquée, il a réussi à les rassembler. Il a réussi à reconstituer la fratrie. L'aîné, ce n'est pas celui qui vient en premier. Ce n'est pas celui qui se pense infiniment supérieur aux autres. L'aîné, c'est celui qui arrive à réunir la fratrie. L'aînesse, ce n'est donc pas un droit. À la limite, ça serait plutôt un devoir. C'est en fait plus exactement une capacité. C'est la capacité à unir. Il y a un aîné dans les 12 enfants de Jacob, Israël, c'est donc pas Ruben, et bien en fait c'est Joseph. Et c'est le sens de cette bénédiction qui va être prononcée sur Joseph, dans la longue liste des bénédictions. Une bénédiction dont on dit qu'elle est un peu particulière, une bénédiction en fait complètement démesurée, hein, vous l'avez entendu, le haut des cieux, le fond de l'abîme. C'est une bénédiction qui appelle à la vie. Les mamelles, l'utérus. C'est une bénédiction qui est l'appel de la vie, le désir des collines éternelles. Pourquoi dit-il que c'est une bénédiction supérieure à la bénédiction qu'il a reçue de ses anciens? Pourquoi cette bénédiction est-elle supérieure à celle qu'il a reçue de ses pères? Parce que c'est une bénédiction qui ne vient pas de ses pères. C'est une bénédiction qui ne vient pas de l'homme. C'est une bénédiction qui vient de la vie elle-même. Parce que c'est l'appel à la vie, c'est ce qui donne le goût de la vie, et c'est donc la vie elle-même. Ce que Jacob dit de Joseph, c'est que cet homme-là a été capable de redonner le goût de la vie à ceux qu'il a croisés. Il a été capable de ressusciter les personnes qu'il a rencontrées. Il a été capable de remettre de la vie là où il n'y avait que mort, rivalité, jalousie, envie d'en finir, de rayer, d'effacer, de squeezer, etc. C'est l'appel à la vie. La bénédiction de Joseph, c'est un véritable appel à la vie. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu pieux. C'est de dire, vous avez des choses à vivre. Vous êtes en capacité d'exister et d'avoir une vie formidable. C'est un appel qui est, vous le comprenez bien, dégagé de toutes les formes religieuses. Ce n'est pas très conventionnel ce genre de bénédiction. Dégagé des conventions, on a vu que le droit d'aînesse parti en fumée, dégager des coutumes, dégager donc des rivalités, dégager des jalousies, dégager des pulsions de mort, car précisément c'est la vie qui est transmise là. Donner de l'envie, le désir des collines éternelles. C'est pour ça qu'on fréquente les textes bibliques en catéchèse. C'est pour qu'il y ait des choses qui pétillent en vous. Parce qu'il a une sorte de fabuleux recueil de témoignages de gens qui ont retrouvé le goût de vivre, ou qui ont été capables de transmettre ce goût de vivre. Alors c'est vrai, la vie de famille est souvent mouvementée, les frères ou les sœurs, des fois ça pèse. Et d'autant plus lorsqu'on a peur que l'autre nous prenne une part de notre vie. Lorsqu'on se dit que l'autre est comme une sorte de parasite qui va nous prendre quelque chose qui devrait nous appartenir. Eh bien ici, Jacob, nous révèle que la bénédiction divine nous affirme que nous recevons tous en héritage. Indépendamment de ce que les autres reçoivent, nous recevons quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. Quelque chose dont rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, c'est l'appel à la vie. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'appel à la vie, bien il suffit de vous replonger dans la trajectoire de Joseph qui annonce celle de Jésus. Amen. Et toujours dans notre recueil de chants, louanges et prières, au cantique 184, nous aurons l'occasion de demander cette grâce prévenante qui prend soin de nous, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 184.
Thank you.
place. Nous avons des informations à partager dans notre calendrier, mais tout d'abord dans les familles. Beaucoup parmi vous doivent le savoir, mais vous annoncez le décès accidentel d'Arnaud Soubeyran, un accident d'ULM. Les obsèques, un culte d'action de grâce aura lieu ici même, vendredi à 16h, et c'est bien sûr l'occasion d'entourer ses parents tout particulièrement. Un accident intervenu la semaine dernière. D'autres choses donc à partager dans notre calendrier, qui est aussi une façon de pouvoir célébrer la vie. Alors, vous dire quelques mots sur notre journée d'aujourd'hui. Il n'y a pas que les enfants de l'école biblique et du catéchisme qui se réunissent. Il y a aussi les lycéens qui se réunissent dans leur groupe de lycéens. À l'issue du culte, ils se retrouveront ensemble. Et j'imagine qu'il doit y avoir Bertrand Marchand quelque part dans notre assemblée. Voilà, tu peux te lever peut-être, Bertrand. Voilà. Pour ceux qui seraient lycéens et qui découvriraient ce groupe, c'est lui l'aîné. Il rassemble les lycéens. Voilà, les catéchumènes, vous allez, à la fin du culte, aller dans la sacristie. Les enfants de l'école biblique vont vous rejoindre et puis on prendra ensuite la route des Tuileries pour pique-niquer. Ensuite, les groupes auront lieu jusqu'à 15h45. Les parents peuvent revenir en face à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire, pour partager le pique-nique, rencontrer les personnes qui s'occupent de la catéchèse et pour que la dispersion ait lieu vers 16h. Si parmi vous, des personnes ont encore des questions à poser sur le déroulement, de toute façon, je me tiendrai à la sortie du temple et je serai tout à fait disposé à vous rencontrer et à voir les choses avec vous, pendant que les catéchumènes, eux, seront dans la sacristie. Il faut aussi se familiariser avec la topologie du lieu. Dans notre calendrier, donc, vous dire que jeudi à 18h aura lieu une réunion pour les personnes qui sont disposées à être présentes pour les journées du patrimoine et pouvoir présenter le temple. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour rejoindre cette équipe. Il y a aussi quelques documents à la sortie du temple qui vous rappellent cela. Nous avons besoin de personnes pour faire des permanences samedi et dimanche prochain, si vous êtes disponible pour une heure, pour deux heures, plus, c'est formidable. Et dans ce cas-là, jeudi à 18h, il y aura une réunion pour préparer un peu les choses. Le chœur de l'oratoire se réunira à 19h30, c'est en face, aux 4 rues de l'oratoire, pour sa répétition hebdomadaire. Donc samedi et dimanche, journée du patrimoine, avec des pauses d'orgue, quelques conférences qui seront données sur le thème de cette année, patrimoine caché. Dimanche, ce sera notre culte à 10h30, c'est le professeur de Nouveau Testament, Elian Cuvillier, qui prêchera. Oui, peut-être juste vous dire qu'à la sortie du temple, il y a aussi le comptoir librairie où les parents pourraient trouver peut-être des ouvrages intéressants pour leurs enfants, pour eux-mêmes. On l'a pensé un petit peu aussi en fonction de la catéchèse. Pour les étudiants, vous dire d'ores et déjà qu'il y aura un culte de rentrée universitaire pour tout Paris. Ce sera le dimanche 30 septembre à 16h à l'église luthérienne de Saint-Pierre. Et si vous voulez savoir où ça se trouve, il y a le plan de Paris ici pour cela. Et si vous voulez plus d'informations, vous renseignez auprès de Juliette Lauvergeat, qui est notre membre à l'équipe régionale jeunesse. Je laisse maintenant la parole à Gilles Deveau, le président de l'entraide, de l'oratoire, pour vous dire un peu le sens que nous avons entendu donner à cette offrande pour l'entraide de ce jour.
Oui, bonjour à tous. Notre offrande de ce dimanche est une offrande d'entraide et nous avons choisi de l'affecter à Topaza, de manière à ce qu'elle puisse contribuer à la reconstruction de l'un des deux bâtiments de l'orphelinat. Topaza a effectivement été touché par un événement important et grave, très grave même, puisque l'un des deux bâtiments, celui qui avait déjà été bien ébranlé il y a 2 ans et demi, a fini par s'effondrer. Alors, une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé, tout le monde est sain et sauf. Tout le monde est sain et sauf, mais à l'étroit, puisque l'orphelinat se trouve amputé aujourd'hui de la moitié de sa surface. Voilà. Donc, nous allons pouvoir, à l'aide de notre offrande, contribuer un peu à cette reconstruction. Donc, soyons généreux comme notre Père est généreux. Merci d'avance.
Nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, en cette rentrée catéchétique, nous voulons te prier pour nos enfants. Non pas simplement nos enfants biologiques, mais tous ces enfants qui constituent notre communauté, tous ces enfants dont nous sommes responsables, dont nous avons peut-être dit à l'occasion de leur baptême que nous étions leur famille spirituelle. Donne-nous de les aider à grandir en stature, en sagesse et en grâce. Donne-nous l'intelligence de pouvoir gérer les rivalités potentielles, de pouvoir répondre à leurs sollicitations, de pouvoir éveiller leur propre intelligence, de pouvoir les stimuler, de pouvoir les rendre à leur tour responsables et de faire de chacun un aîné pour les autres. Nous voulons aussi te prier pour les autres enfants, ceux qui peut-être n'ont pas autant de chance que les nôtres, ceux qui certainement n'ont pas autant de chance que les nôtres. Te prier pour tous les enfants du monde, ceux qui souffrent de la méchanceté des hommes, ceux qui souffrent parce qu'ils sont meurtris par la haine, ceux qui souffrent parce qu'ils sont blessés dans les guerres. Nous voulons te prier pour les enfants qui ont peut-être l'impression qu'ils n'ont plus aucun avenir, soit parce qu'ils naissent infirmes, soit parce qu'ils ne sont ni désirés ni aimés, soit parce que orphelins, leur rêve a été brisé. Eh bien, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, à travers nous, pour que nous leur fassions entendre à nouveau ta bénédiction, ton appel à la vie. Quant à nous, eh bien, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, puisque c'est de cela dont il s'agit, afin que nous puissions un jour entrer dans ton royaume, et le plus tôt possible, dès à présent. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples pour les ressusciter, pour les mettre debout, nous aussi, nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, prenez le temps de ne pas partir trop vite et de vous croiser un peu les uns avec les autres, de ne pas être simplement dans les automatismes de la salutation des gens que vous connaissez déjà, si possible, de grâce. Il y a aussi, à la sortie du temple, les textes des prédications que vous pouvez communiquer à ceux qui ne pouvaient pas être là ce matin, que vous pouvez aussi utiliser pour votre propre intérêt pour la relecture. Et recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous rend comme Éphraïm et Manassé. L'Éternel nous bénit jusqu'au désir des collines éternelles. Amen.